Histoire extraordinaire d'Eure-et-Loire, une émission présentée par Christophe Jubien et Philippe Collonge. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Histoire extraordinaire d'Eure-et-Loire. Vous allez voir que notre département regorge d'histoires rocambolesques et l'une des plus rocambolesques est sans conteste celle du mage de Galardon dont nous allons parler aujourd'hui avec Philippe Collonge. Alors c'est plutôt vous qui allez en parler, Philippe. Moi je vais écouter parce que j'adore quand vous racontez les histoires. Cette histoire du mage de Galardon, on la retrouvera dans votre livre Curiosité historique et littéraire d'Eure-et-Loire paru chez EM Édition. Quand je parle d'une histoire rocambolesque, alors véritablement, celle-là l'est. Hein.
Ah oui, c'est une histoire incroyable et qui touche de très près, en fait, les plus hautes sphères de l'histoire de France. Oui. Hein, à partir d'un simple paysan, dont on va dire d'abord qui il était, on va voir qu'on va toucher au plus haut sommet de l'État, et c'est assez étonnant. Alors, il faut savoir que Thomas Martin, le mage de Galardon, est né en 1783, à Galardon, comme son surnom l'indique. Il était avec son père, haricotier. On disait haricotier à l'époque, c'était le nom qu'on donnait à ceux qui cultivaient les haricots. Il faut savoir qu'à l'époque, Galardon avait presque la réputation d'arpajon en ce qui concerne la qualité des haricots.
Les haricots secs, haricots verts.
Des haricots secs.
Des haricots secs.
Oui. Mais il faut savoir aussi que le terme d'haricotier était devenu dans le patois beauceron le mot le plus utilisé pour désigner simplement un agriculteur de la région. Alors ce Thomas Martin est un homme simple qui sait lire et écrire de façon tout à fait courante. C'est un bon époux, un bon père, il a 4 enfants, c'est un bon chrétien, il est sain de corps et d'esprit, il est éloigné de tout engagement politique, et pourtant il va vivre une aventure tout à fait extraordinaire. Cette aventure débute l'après-midi du 15 janvier 1816. Ce jour-là, 15 janvier 1816, notre ami Thomas Martin est en train de retourner un peu de terre dans un champ à proximité de Galardon, et il voit arriver à lui un personnage un peu curieux qui semble se déplacer sans que vraiment ses pieds touchent terre, qui est vêtu de façon assez curieuse d'une longue redingote, avec une coiffure, un chapeau haute forme tout à fait incroyable, et qui s'adresse à lui d'une voix à la fois douce mais ferme, et qui lui dit en quelques mots, sans que Martin soit très explicite sur ce que lui dit véritablement ce personnage, qui lui dit « il faut aller voir le roi ». Il faut que vous, Martin, alliez voir le roi. Martin lui dit, mais pourquoi vous n'y allez pas vous-même, avec son bon sens de paysan? Et l'autre lui dit, non, c'est vous, Martin, qui êtes désigné pour aller voir le roi. La France va mal, la France risque de traverser des malheurs terribles, et par conséquent, il faut que vous alliez voir le roi. Martin, le personnage disparaît de façon un peu magique, si vous voulez. Martin, tout étonné, va en parler au brave curé de Galardon, l'abbé La Perruque, qui lui dit si ça recommence, venez m'en parler à nouveau. Et effectivement, ça recommence. Tous les jours qui suivent, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, la même apparition vient sommer notre brave Thomas Martin d'aller voir le roi, etc.
Et c'est en plein jour, il est au milieu des champs.
Mais il est tout seul au milieu des champs.
Mais il n'y a que lui qui le voit.
Ça n'est pas devant témoin.
Oui, c'est ça le truc.
N'est pas devant témoin. Ça peut également se produire ailleurs que dans son champ. Ça peut être dans une grange où il est seul, etc. Mais à chaque fois, il est relancé par ce personnage. Tout à fait étonnant. Alors, au bout d'un certain nombre, la liaison se faisant assez bien, d'ailleurs, ce personnage va lui dire, va décliner son identité.
Oui.
Il va lui dire, je suis l'archange Raphaël, ange très célèbre auprès de Dieu. Bon, alors, quand on connaît le parcours de Thomas Martin, qui n'est pas un mystique, qui n'a pas d'idées farfelues, on s'étonne de tout ça.
Mais qui est bon chrétien, vous l'avez dit quand même.
C'est un bon chrétien, ouais, c'est un bon chrétien. Et c'est vrai que l'archange, entre guillemets, lui demande, l'encourage à aller voir le roi pour que la France, très chrétienne, revienne un peu sur ses erreurs, etc. Bon, mais sans aller plus loin, Martin va être envoyé par l'abbé de Gallardon chez Monseigneur de La Roche, qui est l'évêque, l'archevêque de Chartres, qui le reçoit, qui l'écoute, qu'il le trouve sain d'esprit, plein de bon sens, qui par conséquent n'a pas d'idées préconçues et qui le renvoie en disant « bah écoutez, si ça se reproduit, prévenez-moi ». Voilà. Ils sont tous un peu désarmés.
Oui, ils sont désarmés.
Par l'incongruité de ce que raconte Thomas et en même temps par son aspect tellement naturel, oui, tellement sincère, tellement franc, qu'on en est un peu ébranlé.
C'est un homme tout à fait ordinaire, qui raconte une histoire extraordinaire. En fait.
Absolument, ouais. Voilà. Et donc, les apparitions, entre guillemets, se poursuivant régulièrement, cette fois-ci, c'est le préfet d'Eure-et-Loire, le comte de Breteuil, qui convoque Martin, parce que ça commence à faire du bruit dans la région, et qui lui aussi trouve un homme tout à fait ordinaire, mais il veut aller plus loin, et donc il va envoyer Martin à Paris, à Charenton, à l'asile d'aliénés de Charenton, pour se faire examiner par un certain nombre d'aliénistes qui sont très à la mode à l'époque. Il y a un certain Philippe Pinel, d'ailleurs, qui a laissé son nom dans cette activité, qui le reçoit, qui l'écoute, qui l'entend, qui l'interroge, et qui lui aussi trouve un homme parfaitement normal, parfaitement sain, parfaitement équilibré. Et tous ces examens complémentaires ne permettent pas de juger de ce que avance Martin, qui continue à dire, à recevoir des visites de l'archange Raphaël, et à dire il faut que je voie le roi, parce que voilà. Alors le ministre de la police, qui s'appelle Descazes à l'époque, Élie Descazes, va le recevoir à son tour, et lui aussi est ébranlé par l'assurance de Martin, si bien que Louis XVIII,
c'est fou,
va recevoir Martin.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le message qui était donc destiné à Louis XVIII, il ne l'a divulgué à personne d'autre.
Oui, non, il ne dit pas exactement. Il dit qu'il doit voir le roi, qu'il a quelque chose à lui dire, hein, et que ça concerne la France et l'avenir de la France, etc. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, donc, c'est que Louis XVIII va recevoir en tête à tête pendant 45 minutes. Il faut peut-être rappeler un peu la situation. Louis XVIII est sur le trône, c'est la Restauration, après les années difficile et bruyante de l'Empire, si vous voulez, après Waterloo, la sanglante défaite, la Restauration est un peu contestée. Vous avez en France des gens qui sont encore pour la Révolution, d'autres qui sont toujours pour l'Empire, et les troisièmes qui disent « oui, mais peut-être que Louis XVII est encore vivant, vous savez, le fils de Louis XVI. Est-ce que le roi que nous avons sur le trône est vraiment légitime ?» Donc tout ça...
Une France déchirée.
C'est une France déchirée. C'est une espèce de chaos politique, si vous voulez, dans lequel Louis XVIII essaye de mettre un peu d'apaisement. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a voulu aller jusqu'au bout et recevoir Thomas Martin. Alors, quand il reçoit Thomas Martin, on dit qu'à la sortie de cet entretien, le roi est bouleversé. Il a pleuré pendant cet entretien, dont on ne sait pas exactement ce qui s'est dit. On le saura un peu plus tard. On le saura un peu plus tard, mais il y a un deuxième acte tout à fait étonnant.
Un deuxième acte que nous allons évoquer après avoir pris une pause musicale, cher Philippe. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Anciel dans l'émission Histoire extraordinaire de Haute-Loire. Nous évoquons l'histoire fantastique du mage de Galardon. Alors, je ne sais pas si finalement c'est, on a bien fait de l'appeler mage, il est plutôt visionnaire ou voyant,
Les bref. Différents noms lui ont été appliqués, voilà. Bien sûr.
Et donc, on vient de le quitter, enfin, il vient de quitter Louis XVIII, éploré par la rencontre qu'il a faite.
Absolument. Que se sont-ils dit ? Eh bien, il va falloir d'abord attendre 1825, c'est-à-dire la mort de Louis XVIII, pour que Martin se sente délivré du secret de cet entretien et qu'il commence à laisser fuiter un certain nombre d'éléments. Alors, il dit deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que lorsqu'il a rencontré le roi, il l'a convaincu, lui, de sa sincérité parce qu'il lui a raconté quelque chose que Louis XVIII était seul à connaître. Et ce quelque chose est tout à fait étonnant. Il a dit « Sire, je sais, car l'archange me l'a confirmé, que vous avez envisagé à un moment de tuer à la chasse votre frère Louis XVI. Vous vouliez tirer sur lui, une branche vous en a empêché et vous avez renoncé à ce projet funeste. » Et Louis XVIII est obligé, semble-t-il, de reconnaître que c'est vrai, qu'il était le seul à le savoir, puisqu'il était le seul à avoir décidé d'être le meurtrier de son frère, dont il voulait prendre la place par ambition, etc. Donc ça, c'est la première révélation qui se fait jour petit à petit. Et la deuxième révélation, c'est la France qui est entre vos mains, sire, n'est pas entre les mains du roi légitime. Le roi légitime, ça n'est pas vous, c'est le fils de Louis XVI. Qui a été sauvé du temple et qui est toujours vivant. Voilà les deux révélations que Thomas Martin, alerté par l'archange Raphaël, aurait révélé au roi Louis XVIII. Naturellement, ça fait beaucoup de bruit, il y a des écrits qui se propagent dans toute la France. Martin est connu dans toute la France. Vous savez, c'est l'époque où se propagent dans les campagnes un certain nombre de documents.
Les almanachs.
Les almanachs, les colporteurs, etc. Et donc, ça se répand à une vitesse incroyable. Martin est devenu, en quelque sorte, l'oracle de la France. Il est rejeté par Galardon, parce que ça fait beaucoup de troubles du côté de Galardon. Les gens veulent le voir à tout prix, etc. D'ailleurs, il est même obligé de se réfugier tantôt à Paris, tantôt chez des légitimistes, comme on dit à l'époque.
Et donc les légitimistes qui étaient les...
Alors, les légitimistes, oui, c'est plutôt des gens qui étaient constamment dans le complot. Il y en a deux en particulier qui sont proches de nous, c'est le cas de le dire, puisqu'ils habitaient Bleury, au château d'Esclimont. Il y avait au château d'Esclimont à Bleury le duc de La Rochefoucauld, le comte Sosten de son nom m'échappe, peu m'importe.
Le comte Sosten.
Le comte Sosten, voilà, qui était le comment dirais-je, le gendre de La Rochefoucauld. Et donc, ils étaient toujours impliqués dans des complots divers et ils avaient reçu à plusieurs reprises Martin. Et donc, est-ce qu'ils le manipulaient ? Est-ce qu'ils s'en servaient pour essayer de mettre en place leur projet futur ? On ne sait pas très bien. Tout ceci reste extrêmement trouble. Toujours est-il que nous arrivons en 1830 et là, nouveau coup de théâtre. C'est que c'est la révolution de juillet 1830, les Trois Glorieuses, le roi Charles X, qui était le frère, rappelons-nous quand même la dynastie, Louis XVI, son fils peut-être Louis XVII, toujours vivant, le frère Louis XVIII, et le troisième frère Charles X. Hein, les trois frères se sont succédés. Et donc Charles X, qui est le dernier des trois, va être chassé de Paris par cette révolution de juillet 1830. Il va se réfugier dans un premier temps à Rambouillet. Et puis à Rambouillet, il se pose une question. Lui, il connaît bien Martin. Il a entendu parler de Martin par son frère. Il ne sait pas exactement ce que Martin sait, mais il sait que Martin est peut-être capable de lui donner une indication. Et il va envoyer un de ses gardes du corps à Galardon, où se trouve Martin en pleine nuit pour le questionner et lui demander ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit retourner sur Paris ou est-ce qu'il doit partir en exil ? Et Martin ne se déplace même pas. Il répond tout simplement à l'envoyé du roi : « Son règne est fini, le roi doit partir en exil. Vous imaginez, le roi de France va se plier à cette injonction, à cette prédiction.
Le sort du trône de France dans les mains d'un haricotier, quoi.
Absolument. C'est... Et donc, effectivement, Charles X, le lendemain, va quitter Rambouillet, va passer une dernière nuit à Maintenon, avant de partir pour s'embarquer pour l'étranger, pour l'Angleterre, dans un premier temps. Donc, vous imaginez un peu la renommée de Martin. Martin, le faiseur de roi, en quelque sorte, ou le défaiseur de roi. Donc, sa réputation va s'accroître et continuer. Et une fois les Bourbons chassés, c'est Louis-Philippe qui est sur le trône. Alors, c'est la branche cadette, la branche d'Orléans. Et là, les légitimistes ne sont pas tous très contents. Ils ressortent un peu Louis XVII. Est-ce qu'il n'est pas vivant ? Figurez-vous qu'à ce moment-là, quelle page de l'histoire de France, surgit un inconnu, un dénommé Charles Nondorf, d'origine allemande. Et ce Charles Nondorf, qui parle d'ailleurs un très mauvais français, dit « Mais Louis XVII,
c'est moi !»
C'est moi. Et il arrive à convaincre un certain nombre de personnes qu'il est bien Louis XVII. Alors c'est un homme qui est relativement adroit, qui va... peut-être est-ce qu'il a profité d'un certain nombre de lectures ou de confidences glanées à gauche et à droite, mais il va convaincre un certain nombre de personnes de l'ancien régime qui avaient connu la cour de Louis XVI qu'il a bien vécu à la cour de Louis XVI et qu'il était enfant et qu'il lui est arrivé telle aventure tel jour, qu'il reconnaît bien telle nourrice qui s'était occupée de lui quand il avait 5 ou 6 ans, etc. Et donc il va avoir autour de lui une petite cour. Pour quelqu'un qui parle à peine le français, ça paraît quand même tout à fait étonnant. Il a échafaudé des aventures abracadabrantesques, où il est parti à gauche, à droite, etc. Bref, des inventions qui feraient sourire un adulte et un enfant même. Mais il y a des gens qui y croient.
Il a surfé sur la nostalgie peut-être aussi des Bourbons.
Oui, et puis il y avait déjà eu plusieurs prétendants au poste de Louis XVII hein, qui avaient été éliminés les uns et les autres. Et lui était peut-être un peu plus malin, un peu plus intelligent. Et puis il arrivait à un moment surtout où avec la révolution de juillet, l'arrivée des d'Orléans sur le trône, il représentait un nouvel espoir pour les légitimistes. Toujours est-il que il va... faire des pieds et des mains pour rencontrer Martin aussi.
Martin, mais bien sûr, il faut être adoubé par Martin.
Absolument, sinon. Et c'est ce qui va se produire. Ils vont se rencontrer en septembre 1833. Je rappelle que la première vision de Martin remonte à 1816. Hein, donc, vous voyez qu'on est quand même 20 ans, 21 ans plus tard. Et donc, nous avons là la rencontre à Paris de Thomas Martin, le thaumaturge, le faiseur de roi, et de Nondorf. L'entretien dure une heure. Martin ressort le visage rayonnant en disant « C'est bien lui. »
Fumée blanche.
Fumée blanche. « C'est bien lui. C'est le roi Louis XVII. Je l'ai reconnu. » Naturellement, cet adoubement vaut pratiquement comme un sacre pour Nondorf et pour tous ses partisans.
La suite de l'histoire, je vous propose de l'entendre après bien une sûr. Seconde pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Rancière, l'histoire extraordinaire de Haute-Loire. Aujourd'hui, le mage de Galardon et Charles Nondorf, le vrai faux Louis XVII, Philippe Collonges.
Oui, on verra tout à l'heure ce qu'il en est vraiment. Mais toujours est-il que nous sommes à la fin de 1833. Thomas de Galardon a adoubé Nondorf comme étant le véritable fils de Louis XVI, le petit Louis XVII. Et donc, il va au printemps 1834, comme il le fait tous les ans, passer une neuvaine à Chartres.
C'est donc neuvaine, rappelez peut-être aux auditeurs qui ne connaissent pas.
C'est en fait un cycle de prières qui se déroule sur 9 jours à une certaine période de l'année, etc. Là, on est autour de l'Ascension, du jeudi de l'Ascension. Et donc, il va chez des nobles qui l'hébergent depuis des années, parce que naturellement, il est très bien reçu.
Son standing a quand même
a considérablement progressé. Et il est reçu par Madame Valou de Lancey, qui habite rue Chanteau. Alors, on voit encore la maison, mais enfin, elle a été beaucoup transformée.
Ah, c'est la vieille maison, là, rue Chanteau.
La vieille maison qui fait l'angle de la rue Chanteau. D'accord. C'est là où habitait la famille Valou de Lancey, une des familles les plus en vue de Chartres, des nobles. Le mari est un peu malade, c'est surtout Madame Valou de Lancey qui s'occupe de Thomas Martin. Il est donc sur place et le voilà qui est pris d'un seul coup, lui aussi, par un certain nombre de malaises, des douleurs d'entrailles terribles, etc. Alors, on nommait un peu, l'attitude des Valou de Lancey est un peu bizarre. Ouais. On nommait de faire venir le médecin, qui était pourtant assez présent, puisque le mari était lui-même souvent souffrant. On le fait pas voir par les médecins, on pense que ça va se rétablir, ça semble se rétablir. Madame Valou de Lancey va même prévenir Madame Martin, parce que Martin est toujours marié, père de famille, avec ses 4 enfants. Elle le prévient en disant « Vous pouvez peut-être revenir chercher votre mari ». Quand Madame Martin arrive, on lui dit « Votre mari est mort dans la matinée, mort pris de vomissements, mort d'étouffement et de mal d'entrailles ».
On peut être un peu surpris quand même par cette tournure.
C'est assez curieux. Ça rappelle un peu le triste sort de Madame de Lamotte, dont je racontais l'autre fois les déboires avec le criminel des rues. Mais donc, notre pauvre Thomas Martin est mort. Et là, encore une fois, l'attitude des Valou de Lancey va être bizarre, car ils ne vont pas du tout déclarer sa mort sur place à Chartres, ce que la loi les oblige à faire. Ils vont louer une charrette à l'auberge du Soleil d'Or qui se trouve juste à côté. Ils vont mettre le corps sur la charrette et ils vont adresser le tout à un cousin de Thomas Martin qui est curé à Bleury. Ouais. Bleury, n'oublions pas où se trouve le château d'Esclimont.
D'Esclimont.
Tout ça, c'est...
Avec les conspirateurs.
Avec les légitimistes, les La Rochefoucauld, et Sosthène, dont on parlait tout à l'heure. Bien. Et donc, c'est assez curieux que cette famille ne respecte pas, à minima, la loi en ce qui concerne la déclaration des décès. Et le malheureux Martin arrive donc à Bleury. On réveille son cousin, curé. On lui dit « Est-ce que vous pouvez dire qu'il est mort chez vous ?» etc. Le curé dit non, il n'en est pas question. Moi, je ne veux pas faire de fausses déclarations. Donc, le funèbre cortège reprend la route de Galardon, où là, le maire ne veut pas enregistrer non plus le décès.
Quelle nuit !
Oui, c'est assez, assez incroyable. Alors, j'ai noté ici que, on avait noté que lorsque le corps est arrivé à Galardon, il était prodigieusement enflé, la face horriblement défigurée et le sang sortant par la bouche et les narines. Je ne sais pas si celui qui a écrit cette phrase a vu vraiment le corps, mais enfin, ça donne quand même une impression assez terrible de ce qui pouvait, de ce que pouvait représenter le pauvre Martin, qui est finalement enseveli le lendemain, et l'état civil de Galardon retranscrit le décès en l'antidatant et en n'indiquant pas l'endroit où il est mort.
Donc tout ceci est quand même... Personne n'est clair dans cette histoire. Hein.
Personne n'est très clair. Et puis le fils Martin, qui n'a pas assisté à cette affaire parce qu'il est à Paris, il est médecin. Il est médecin, le fils Martin. Oui, il a fait une belle carrière. Il a quitté le métier d'haricotier, lui. Et donc, il est médecin à Paris. Il arrive et il dit « Mais mon père est mort. De quoi ? Comment ? Je veux qu'on exhume le corps, etc. » Alors, ça va faire tout un cirque parce que personne ne veut prendre la décision. Ça remonte jusqu'au préfet de Chartres qui finit par accorder l'autorisation d'exhumer le corps, qui va être autopsié par 4 médecins, dont deux domiciliés à Galardon. Moi, j'ai lu l'autopsie, c'est un peu, c'est pas d'abord très agréable à lire, mais il n'y a pas de traces visibles de poison, mais on dit qu'il serait mort d'étouffement, d'avoir trop mangé, mais quand il était dans un état pareil, est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit mort d'une indigestion ? Enfin, tout ceci est extrêmement louche, et naturellement, ça va entraîner une très vive polémique entre la famille de Martin Et les gens bien pensants qui disent ben non, il est mort de mort naturelle, et les Valous de Lancer qui naturellement optent pour cette version. Donc la vérité sur la mort de Martin a fait l'objet d'un petit fascicule édité par les parents de Martin, qui est très intéressant à lire, et eux tiennent fermement à l'empoisonnement progressif. Et probablement à une fin qui s'est traduite par un étouffement. Alors est-ce que c'est un étouffement volontaire ou involontaire? On ne sait pas très bien, à la suite de tous les petits poisons qu'il avait ingérés. On ne sait pas très bien, mais en tout cas, ils ne se sont jamais départis de cette mort non naturelle et provoquée par qui? Alors là. La question reste entière. Qui avait intérêt à ce que Martin meure? En tout cas, pas Nonndorf.
Ceux qui ne voulaient peut-être pas, justement, que Charles Wendorf...
Peut-être que ceux qui ne voulaient pas... Peut-être le roi Louis-Philippe, après tout. Peut-être pas lui directement, mais dans ses sphères. Il était remis en cause présence de Nonndorf. Il était l'usurpateur à double titre, d'abord parce qu'il n'était pas de la branche directe, c'était un d'Orléans, et ensuite il avait pris la place de son neveu. Donc on ne sait pas très bien, les raisons, toujours est-il que ce brave Martin est mort et enterré à Galardon, où on voit toujours sa tombe.
On voit toujours sa tombe. Hein.
On voit toujours sa tombe. Alors ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que le brave Nonndorf, lui, il perdait son principal appui. Il perdait son principal appui, qu'il l'avait reconnu, qu'il l'avait adoubé. Et par conséquent, il va finir par être expulsé de France 2 ans plus tard, malgré... Lui aussi, il va se lancer dans des prédictions, dans des visions, etc. Il va dire même que Martin lui est apparu. Il rentre dans le jeu. Bref, il va être expulsé de France jusqu'à sa mort. Il ne renoncera pas à dire qu'il est le véritable Louis XVII, ce qui a été infirmé par un certain nombre de recherches ADN relativement récentes, car Nonndorf a des descendants qui ont continué à revendiquer leur ascendance bourbonne, mais les recherches ADN qui ont été menées dans les années 70 ou 80, au début de l'ADN, ont permis de voir qu'il n'y avait pas de filiation directe entre les Nonndorf et les Capétiens.
Histoire extraordinaire du mage de Galardon, c'est à retrouver dans Curiosité historique et littéraire d'Eure-et-Loir de Philippe Collonge, publié aux éditions EM. On se retrouve dans un mois pour une prochaine histoire extraordinaire. Merci beaucoup, Philippe.
Merci à vous.